7h50 sur RFI, notre invité ce matin, Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
Yannick Jadot, vous êtes eurodéputé, tête de liste pour les élections européennes de 2019, on y reviendra. D'abord, la COP24 s'est achevée samedi à Katowice, en Pologne. Il a fallu jouer les prolongations pendant 24 heures jusqu'à samedi, mais elle a permis d'accoucher d'un accord, sorte de mode d'emploi pour la mise en place de l'accord de Paris signé en 2015. Alors c'est forcément un texte un peu technique, mais j'imagine que vous avez suivi ces négociations.
J'y étais, oui.
Les jugez-vous encourageantes et surtout suffisantes ?
Absolument pas, absolument pas. C'est une énorme déception puisque il y a quelques semaines, on avait le rapport du GIEC, les experts de la communauté internationale disant à quel point il ne faut pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, sinon c'est la catastrophe. On a ces millions de personnes dans le monde qui marchent et qui appellent à l'action. On a ces conséquences dramatiques qu'on voit déjà partout en Europe comme dans le reste du monde, et on a des gouvernements totalement apathiques qui, certes, se sont mis d'accord sur un mode d'emploi. C'est important de savoir que la tonne de CO2 évitée en Europe pèse le même poids que la tonne de CO2 évitée en Chine. Mais quand on n'évite pas les tonnes de CO2, ça sert à rien, parce que le grand sujet, c'est que les États augmentent leurs ambitions en matière de climat, leurs ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et sur ce point-là, c'est encore reporté dans une nouvelle négociation en septembre 2019. Je finis sur ce point-là. Les États aujourd'hui, quand on cumule leurs engagements climatiques, on est sur un réchauffement de 3 à 4 degrés. Autant dire que c'est le chaos. Et on n'a pas réussi à Katowice à se mettre d'accord pour réduire gap, ce gouffre entre ce qui est indispensable de faire et ce qui est fait.
Est-ce que le retrait américain décidé par Donald Trump n'a pas finalement découragé un peu tout le monde ?
Non, parce que finalement, évidemment, ça a permis de coaliser l'Arabie Saoudite, le Brésil maintenant, qui tombe dans le camp des climato-sceptiques. Mais reconnaissons que les Américains n'ont jamais été des grands négociateurs du climat. Le seul sujet politique qu'il y avait à Katowice, c'est est-ce que l'Union européenne, sur laquelle repose aujourd'hui la défense du multilatéralisme et de cette ambition climatique, est-ce que l'Union européenne allait elle-même démontrer qu'elle est capable de rehausser ses engagements climatiques à la hauteur de ce qu'il faudrait faire ? Et malheureusement, force est de constater que l'Union européenne n'a pas eu cette ambition-là, n'a pas pris ce leadership-là, que l'Allemagne est dans la confusion de ses politiques climatiques et que la France est restée cachée. La France est restée cachée pendant toute cette négociation et même au moment dur de la négociation, elle n'avait même plus à se cacher puisqu'elle n'était pas représentée. Aucun ministre français présent à la COP au cœur de la négociation. C'est proprement scandaleux quand on sait que la France est quand même la gardienne de l'accord de Paris signé il y a 3 ans.
Alors justement, l'autre fait marquant du week-end, c'est la 5e journée de mobilisation des Gilets jaunes en France. Il est difficile vraiment d'estimer combien de personnes se sont mobilisées précisément, mais indéniablement, il y a eu un essoufflement par rapport aux semaines précédentes. À quoi l'attribuez-vous ?
Il y a eu des réponses apportées par le gouvernement sur notamment le SMIC, sur la CSG. Je crois que il y a aussi une forme d'essoufflement liée aux violences. Mais finalement, moi, ce que j'attendais, et c'est très en lien avec la COP24, c'est que ce gouvernement, justement, pour lutter contre la vie chère, pour lutter contre la crise écologique et sociale, se lance dans un plan Marshall de l'isolation thermique de nos logements, se lance dans un plan Marshall de la mobilité à travers les transports collectifs. J'étais il y a quelques jours dans une maison dans la région centre Val-de-Loire et le ménage qui est là dépensait 2200 euros de chauffage par an. C'est le cas d'énormément de maisons, notamment en zone rurale. Ils ont investi dans l'isolation de leur logement. Ils sont passés de 2200 euros par an à 70. De 2200 à 70 euros par an. On a aujourd'hui les outils publics pour faciliter cette transition, pour faciliter et contribuer à cet investissement. Imaginez que l'État, au lieu de renoncer sur tout l'agenda écolo, ait monté cet investissement.
Vous avez l'argument écologiste, il avait été employé pour justifier la hausse des taxes sur le carburant. Il faisait partie, d'ailleurs, la hausse des taxes sur l'hydrocarbure faisait partie de votre programme, de celui du candidat que vous avez soutenu, Benoît Hamon. Qu'auriez-vous fait vraiment différemment ?
Mais ce que les écologistes ont toujours dit, depuis plus de 10 ans que nous discutons de la fiscalité écolo, c'est chaque euro collecté à travers cette fiscalité doit être rendu aux Français pour les accompagner dans cette transition et pour investir. D'où ce plan d'investissement sur le logement, sur la mobilité, sur les énergies renouvelables. Parce que quelle est aussi la revendication, me semble-t-il, aujourd'hui des maires, des gilets jaunes et de beaucoup de personnes qui se sentent reléguées sur un certain nombre de territoires, quartiers populaires, petites villes, zones rurales. C'est qu'on les considère politiquement, mais qu'on investisse. Quand vous faites de l'isolation des logements, ce sont des dizaines de milliers d'emplois d'artisans non délocalisables sur nos territoires. Les énergies renouvelables, ce sont des PME. L'agriculture paysanne, c'est de nouveau des paysans dans nos campagnes plutôt que l'agriculture industrielle qui nous pollue et pousse au suicide des paysans. Donc le programme écolo, à travers le fait de flécher tout euro de fiscalité écologique, à travers les normes qu'on veut imposer aux constructeurs automobiles qui aujourd'hui trichent avec le soutien de l'État, eh ben c'est justement de reconstruire des territoires, de reconstruire des terroirs où on est fier d'habiter, où on vit bien, parce que quand il y a du boulot, eh ben il y a des services publics, il y a de la culture, il y a de la démocratie, et ça va vachement mieux.
Alors ce programme écologiste, je le rappelais en introduction, vous allez le défendre en tant que tête de liste des écologistes aux européennes de 2019, en mars prochain, la stratégie d'alliance d'Union des Gauches de la présidentielle, qui avait en tout cas en partie tenu avec Benoît Hamon et le Parti Socialiste, elle est terminée ?
Tout ce dont on a parlé là, c'est à la fois l'urgence écologique et vous évoquiez la Roumanie dans votre journal, c'est l'impératif de ne pas laisser l'Europe être conquise par les nationalistes, les populistes et l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que la recomposition à l'image de la gauche plurielle ou du Parti socialiste du XXe siècle, c'est la réponse à la crise écolo et à l'agenda européen ? Moi, j'entends l'envie de beaucoup de se dire oh, « Le Parti socialiste est en train d'exploser, sauvez-le, sauvez-nous ». Mais pardonnez-moi, en Europe, il n'y a pas que Macron. Il y a Salvini, il y a Orban, il y a une Europe qui est en train de se disloquer parce qu'elle n'investit pas pour sa jeunesse, parce qu'elle n'ouvre pas cette grande page de son nouveau projet qui va être l'écologie. Fin de la Seconde Guerre mondiale, le grand projet, c'était la paix et la prospérité. Aujourd'hui, le grand projet européen, c'est l'écologie et les millions d'emplois qu'on crée autour de cette transition et le nouveau projet de société partagée qu'on offre à notre jeunesse. Excusez-moi, c'est un peu plus grand.
Mais comment expliquer que l'écologie ne semble pas aujourd'hui séduire les électeurs, en tout cas pas les électeurs français?
Mais vous allez voir que ça va venir. Vous allez voir que ça va venir parce que aujourd'hui, on est dans le prisme de la politique nationale et c'est normal. Mais on ne sauvera pas les océans, on ne sauvera pas notre santé, on ne sauvera pas le climat, on ne redonnera pas l'envie d'une société ouverte dans nos frontières, sans l'Europe. Et on a besoin de l'Europe, on le sait, face à Trump, à Poutine, à Bolsonaro et à tous les autres. Et on a besoin d'une belle Europe face à Orban, face à Salvini. On a besoin de cette belle Europe à la fois pour sortir de l'arnaque libérale et du hold-up populiste. Et donc, pardonnez-moi, l'agenda de la politique française, y compris pour tous ceux qui se projettent sur 2022, c'est pas l'agenda des européennes. Et moi, je veux pas tromper les électeurs.
Est-ce que la votre crise... campagne sera européenne dans ce cas-là? Est-ce que
vous bien sûr, avec... on est une famille écologiste. Vous avez vu que il y a encore que 3 semaines, on était rassemblés à Berlin, toute la famille écologiste, en train de construire cette grande vague verte pour partir à la conquête de l'Europe et redonner espoir aux citoyens européens. Et franchement, là, d'un seul coup, il faudrait se replier sur notre agenda d'une gauche que certains dont certains ont organisé l'explosion. Et moi, il faudrait que je sois médecin urgentiste de cette gauche-là. Désolé, c'est pas mon sujet.